Pas plus haut que le bord.
Mais c'est comme
c'est clair, voilà.
Ça va aller très mal.
D'accord avec vous.
Et totalement.
Ah, et là, j'assume.
Pas plus haut que le bord.
Vous êtes en direct sur la grosse tambouille. Bienvenue, chers auditeurs.
Ouais.
Oui, vous le savez, cette émission est en direct et en public depuis le bar, le Petit London.
On est là.
Oh, yeah. Yeah.
Voilà. Ça y est. On va un peu les stimuler, mais après ça va.
Les deuxième et quatrième mardi du mois, en rediffusion sur Radio Mon Pays, le jeudi de 11h à 12h et le matin, la nuit de jeudi à vendredi de 1h à 10h du matin.
C'est comme...
On pourrait tomber dans la facilité, on pourrait suivre le buzz médiatique, parler du superflu, du futile, et gonfler encore et toujours le flot d'inutilité affligeante qui parcourt la planète média. Mais ici, à pas plus haut que le bord, l'info, c'est du solide, du sacré, du brutal. Fi des rumeurs de cocufiage des époux présidentiels. Fi des ragots malfaisants de notre starlette Rachida. Fi des agitations des prétendants de la droite à l'onction de 2012. Fi des petites phrases et des grands vides de la gauche rose et vert pâle. Ici, et nulle part ailleurs, ce qui nous importe, c'est l'info militante, rebelle, anarchiste et révolutionnaire. C'est pourquoi nous devions de parler d'un tout nouveau magazine, d'une bombe médiatique qui va révolutionner la presse.
Ouais.
Et oui, et cette révolution, nous la devons au groupe Lagardère. Oui, je le sens, vous commencez à douter, à être sceptique, à émettre des ondes négatives. Lagardère, ce marchand d'armes, ce mania de la presse, toute catégorie, télé, radio, écrit, nous abreuverait une fois de plus d'un énième magazine. Oui, mais là, c'est un nouveau concept média. Un média global. Internet, iPhone, télé, radio et bien sûr papier glacé. Mais n'ayez crainte. Bing ne viendra pas concurrencer elle du même groupe Lagardère, car on lit elle de 7 à 77 ans. Comme le rappelle Didier Quillot, président du directoire de Lagardère Active. Alors que Bing, ce nouveau magazine, ce nouveau média global, est une marque générationnelle pour les jeunes femmes de 30 ans qui veulent tout de suite, un peu comme notre icône transgressive Paris Hilton. Et là, effectivement, quand c'est Paris Hilton, la caution qualité du nouveau magazine pour filles modernes et transgressives, il n'y a pas à s'en faire pour la fulgurance intellectuelle et la radicalité de sa ligne éditoriale. En ces temps obscurs, un peu de fraîcheur est bien nécessaire. Bon, bien sûr, dans l'actualité, il y a deux, trois petites infos plus secondaires que l'on pourrait commenter. D'abord, l'assassinat d'un néo-nazi en Afrique du Sud.
C'est la fête.
Un bon facho qui aimait jouer avec ses bergers allemands et les entraîner à bouffer du noir. Il est tombé sur deux gars, pas content d'être traité comme des esclaves, et Quick, le susnommé Terre Blanche. Quick. Avant la Coupe du Monde de foot, on redécouvre que l'Afrique du Sud porte encore quelques germes d'apartheid et que les racistes sont toujours là. Non mais je tremble moi pour notre équipe de France Blanc Black Beurre. Oui, je sens vous aussi. Heureusement, chez nous, il y a notre ministre de l'expulsion des étrangers de la race française qui veille. Désormais, on pourra reconduire à la frontière, virer un étranger, quoi. Même si son arrestation est illégale. Même si le juge des libertés et de la détention le constate. Plus à droite que Besson, il y a peut-être Jean-Marie. Et encore parce que Besson veut désormais savoir combien coûte un étranger en situation irrégulière. Mais ça coûte à la collectivité, bien sûr, une question redondante pour l'extrême droite et pour le ministre de l'Immigration et de l'Identité Nationale. C'est vrai, ça. Combien ça coûte un enfant irrégulier qui va à l'école, qui mange dans les cantines françaises, qui se fait soigner par des médecins français? Oui, oui. Et en plus, ses parents qui parlent même pas notre langue, eux aussi bénéficient de soins. Et parfois d'une tante quechua. Mais quand on les met en centre de rétention, quand on les renvoie chez eux, ça coûte combien aux contribuables? Un peu la nausée. Une sensation de déjà vu dans les années 30.
Ça coûte. Alors, ça coûte. On veut savoir combien coûte un sans-papier. Moi, je pensais en acheter un, moi, pour Noël.
Alors.
Parce que Besson, figurez-vous, il a lancé une enquête. Il y a un consultant, donc c'est pas encore son nom, qui va enquêter pour savoir combien coûte un sans-papier. C'est pas beau, ça?
Bah, c'est magnifique. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est si on en achète 10, est-ce qu'on peut avoir un prix? Moi, je veux un prix sur mon sans-papier quand même.
On posera la question à notre cher Besson. Ah. Mais enfin bon, si jamais vous sentez pas bien, il reste toujours le nouveau magazine Bi pour alléger tout ça. Et là, ça risque pas on risque pas de rencontrer d'inquiétants sans-papiers. Oui, alors autour de la table,
c'est qui en couverture?
Autour de la table dans Papier au Clubbord, ce soir nous avons quatre chroniqueurs. Oui, alors des chroniqueurs, vous savez qu'ils sont inclassables, hein, incorruptibles. Ouais. Sauf, enfin bon, peut-être CSP est incorruptible. Alors on va commencer par CSP. Salut CSP.
Salut.
CSP classable, quoi.
Et mais... Gwen, oui. En retour de Gwen.
Enchanté.
Mais oui. Gwen est enfin revenu. Donc on va voir de quoi il parle tout à l'heure. Évidemment, Jeff est là.
Bah oui.
C'est fatal.
Même quand je suis pas là.
Et je vois que tu apprécies ce nouveau magazine.
Ah ouais, je l'ai jeté par terre à l'instant.
Non, quand même, j'ai trouvé dans les chiottes chez mes parents. Franchement, c'est...
C'est pas beau de pas assumer ses achats quand même. T'assumes pas tes achats, quoi.
Saumon.
Et évidemment, autour de la table, l'inénarrable, le merveilleux, le magnifique...
Il est amoureux de moi, quoi. Bonsoir.
Voilà, enfin.
Merci.
Et Yannick, nous remercierons jamais assez Yannick, quoique quand même, de nous offrir son bistrot pour faire cette émission.
J'avoue, quoi.
Oui, bah, évidemment, je termine toujours par la plus belle, la plus merveilleuse et la plus insondable.
Christelle.
Christelle.
Ouais.
Et ce soir, bravo pour Christelle, il y a un monde de fou qui la calme. Ce soir, nous aurons un groupe aussi qui s'appelle Willette et Gilkinson. Ça y est, il y a les féministes là qui sont en train de se rebeller. Décidément, dans cette émission, on a dit que c'était une émission de mecs.
Il n'y a pas de mecs dedans.
Il n'y a que du poil.
Il n'y a que du poil. Alors, donc, tu vas nous parler de la retraite et le Parti Socialiste. Je sens
ça va être bon, ça.
Je vous rappelle que l'émission est sponsorisée par la mairie de Toulouse. C'est donc la dernière émission.
En même temps, on est rassuré, il n'y a pas de socialiste à la mairie de Toulouse.
Ah ouais, c'est vrai.
Ils seront pas vexés.
Fallait bien la cavalerie pour ces
éclairs. Les choses sont simples, c'est le début de la très scélérate réforme des retraites et l'inique gouvernement de Charogne que nous subissons depuis trois exténuantes années et dont on déplore sincèrement qu'il ne prenne pas un Tupolev polonais le plus vite possible. Ce gouvernement donc va exiger que tous travaillent plus longtemps pour toucher à la fin une pension ne permettant qu'une année de survie. Ce en quoi ils sont cohérents, puisque de droite, et depuis quand la droite fait-elle quelque chose autrement que pour enrichir la classe sociale qu'elle représente? Hein?
Oui, non.
Bon. Il parle trop vite là.
Mais là, vous avez pas suivi.
J'ai rien compris, moi.
droite aurait bien du souci à se faire si elle n'était pas grandement aidée dans ses saloperies par cette gauche frelatée qui a renoncé à tout, sauf à ses postes de député maire multicarte et autres conseillers en tout genre. Je veux bien évidemment parler du parti qui n'a plus de socialiste que le nom et dont le Libé de hier nous cause en exposant les différents points de vue des apparatchiks concernant les retraites précisément. J'évoque le suspense.
Les socialistes ont donc des idées sur les retraites.
Oui, que des idées à la con. Puisque aucun de ces socio-traîtres ne propose évidemment de financer les retraites en prenant l'argent là où il y en a, à savoir dans les amples poches du patronat et autres banquiers, que nenni évidemment, puisque faire ça serait faire quelque chose de gauche. Et la gauche, les socialistes ne savent plus ce que c'est depuis que Jaurès s'est fait assassiner par un fan d'Éric Zemmour. Attention, je sais que ce que je viens de dire est quelque peu audacieux eu égard au fait que, certes, Éric Zemmour n'existait pas encore à cette époque et les gens de cette époque ne connaissaient pas leur bonheur.
Ah bon, mais c'était pas pour toi, le sentiment qu'il est en fait dévier, ce genre.
C'est, on a le sentiment qu'il est éternel parfois.
Non, pas éternel, mais bon.
Non, mais lui en tant que tel, il va finir crever un jour. Mais on... Certes. Voilà. Quand on se renseigne sur l'assassin de Jean Jaurès, on apprend que celui-ci est un militant nationaliste, donc d'extrême droite, donc s'il vivait de nos jours, il serait fan d'Éric Zemmour.
Tu penses que les gens d'extrême droite sont fans d'Éric Zemmour?
Ah ouais.
Non, la télévision publique peut pas nous faire ça quand même.
Ah si, si.
Bien sûr que si.
Ah bon. La démonstration est implacable, je sais, merci. Et par parenthèse, saviez-vous que ce sinistre individu, du nom prédestiné de Raoul Villa, l'assassin de Jean Jaurès,
c'est un culte,
quoi.
Qui était extrême droite ou quoi? Raoul.
Mais que t'es con, là, les autres, mon Dieu. J'ai mal pour toi, j'ai mal pour tes parents. Donc Raoul Villain a été à l'époque scandaleusement acquitté de cet assassinat.
Ah, ça vous a coupé. Mais pour quelle raison? Et pourquoi?
Parce qu'il a été acquitté pour faute de preuves.
D'accord, on n'a pas
pas de témoins. Alors, il s'est réfugié en Espagne après la guerre, où fort heureusement la justice du peuple a su le retrouver, puisqu'il a été fusillé pour espionnage au service des franquistes par les républicains espagnols en 1936, illustrant ainsi la sentence sévère mais juste « Dieu pardonne, pas le prolétariat ».
Ouais.
Là, passer des glorieux républicains espagnols à nos piteux socialistes français est un déchirement, mais il le faut. Que proposent donc ces guignols pour les retraites?
Vous avez remarqué que CSP n'aime pas trop les socialistes.
Alors on est passé de Jean Jaurès aux retraites, hein, quand même.
Oui.
Et aux socialistes.
Et aux socialistes.
Ok. À l'époque de l'assassinat de Jaurès, mais les auditeurs comprennent bien.
Il y a une articulation.
T'es sûr, ouais.
Articulation très forte dans ce que je dis. Réfléchissez, ça ne se sent pas au
bout.
Bien sûr. Benoît Hamon sauve un peu les meubles en murmurant que bon, bah peut-être éventuellement, faudrait faire payer un peu les banques. Et ensuite, il pense à son poste de député européen, il ne dit plus rien. François Hollande chointe, je cite, il va sans doute falloir allonger la durée des cotisations à mesure que l'espérance de vie s'allonge.
Ah, tu vois, regarde.
Et insiste encore, il est impossible en tout cas de faire l'économie d'une réforme.
Donc il est.
Et également l'inénarrable Manuel Valls, qui lui aussi a décidé qu'il faudrait réserver une place sur Air Pologne le plus vite possible. À scène, un pacte national sur cette réforme, non seulement avec les partenaires sociaux, mais aussi avec la majorité.
Ouais.
On travaille du main dans la main avec la majorité.
Mais oui, parce que la retraite, ça concerne tout le monde, donc c'est normal. Non, c'est pas normal.
Non.
Mais il y a des dissensions quand même. Il y a des dissensions au PS quand même. Hein.
Non mais justement, j'y viens.
Ah.
Attends.
Ah.
J'y viens.
Ah.
Mais toi, t'as pas changé, quoi. Non, toi, des sociaux-démocrates.
Mais pas du tout, pas du tout.
Ouais, mais tu comprends, c'est pas de leur faute.
C'est notre...
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres.
Alors, vas-y, je te.
On était.
Mais qu'est-ce qu'ils nous proposent pour donc ils veulent bien s'allier avec la droite pour faire des retraites? Il y en a un qui suit.
Le rôle de la gauche, Manuel Valls toujours, le rôle de la gauche n'est pas de souligner les changements démographiques ni de cacher l'ampleur des déficits. La gauche peut défendre une retraite à la carte et l'allongement de la durée de cotisation, c'est beau comme du Laurence Parisot. Et on apprend, spécial dédicace web, dans l'IB de ce matin, que nos désopilants socialistes vont se réunir entre courants pour en causer entre eux des retraites. puisque vous venez de comprendre qu'ils ont quelques menus désaccords de forme là-dessus.
Donc
et c'est vrai que c'est drôlement urgent qu'ils se voient entre eux pour en causer. Si il y a des socialistes dans la salle,
sortez.
Il serait peut-être super sympa qu'ils expliquent à leur patron qu'il y a une crise, que la droite est au pouvoir, que les classes populaires boivent un amer bouillon et commencent à être rejointes par les classes moyennes se paupérisant, et que peut-être grâce au libéralisme on commence vraiment à être un peu tous dans la merde, comme auraient dit les républicains cités plus haut, et que politiquement parlant il y a peut-être autre chose à la foutre que se tirer la bouille rue de Solferino à la fin. Mais je reprends mes esprits, je repense à ce que je viens de dire, je me rappelle les rares et éprouvantes conversations que j'ai pu avoir avec les militants socialistes de base, qui sont en fait aussi couards et timorés que leurs leaders, et je reformule donc, s'il y a des socialistes dans la salle, mais qu'est-ce que vous foutez là, connard ?
Bravo !
Voilà, c'était CSP en grande forme ce soir, effectivement. Et ses ennemis de toujours, les socialistes.
Non, les ennemis de toujours, c'est le capitaliste.
Ouais, je vois. Mais alors, donc alors, au niveau de l'âge de la retraite, t'en penses quoi, toi alors ? Très plutôt. Est-ce que t'as une réflexion là-dessus ou pas trop ?
CSP est d'accord avec moi. Nous, on est favorable à l'âge de la retraite, à départ à la retraite à 30 ans.
Ok.
C'est ça. Hein ?
D'accord.
Parce que l'argent qu'il y en a pour les
poches du patronat. Je vous arrête parce que là, il y a quand même un groupe qui s'appelle Willett et Jilkinson. Notez bien quand même la finesse du jeu de mots. J'ai mis 2 heures pour le comprendre.
C'est
oui, mais même l'hiver. Hein. Donc, les garçons, là, ces deux garçons, je pense qu'ils s'appellent les garçons. Willett et Jeff Fitzon, c'est qui Willett là, lève la main, Willett. Voilà, Willett, il lève la main les deux. Et Jeff Fitzon, c'est pareil, il lève la main les deux. Vous avez des dates, messieurs, là, non ?
On a des figues.
Oui, la date de ?
Faut parler au micro.
Non, on a des figues.
On a des figues.
Ils ont des figues. Ils ont pas des dates. Ils ont des figues.
On a pas de date, non.
C'est mon tour d'avoir compris le jeu de mots. Ça.
Ouais. Oh. Hey, on va se marrer.
Vous pouvez causer dans le micro. Vous avez
le micro là. Ouais.
Là, on peut. Ben oui.
Il marche. Ah oui, d'accord.
Oui.
Merci de nous accueillir. On va faire donc une petite chanson qui s'appelle Willett et Jilkinson. Et après, ça enchaîne sur une autre, parce qu'elles sont courtes, nos chansons, donc on a enchaîné 2 chansons. Et ça enchaîne sur une qui s'appelle Le Marathon des mots, voilà, qui parle de culture, tout ça. Et puis, en fait, ça nous a été donné par quelqu'un dans la rue qui écrivait des poèmes. Il nous l'a donné et on l'a mis en chanson. Voilà.
Et tu savais que c'était une émission culturelle, donc ouais. C'est quoi. Merci. Allez-y.
Aujourd'hui, commencez votre journée avec Gillette Fusion Power et la confiance que vous procure le plus confortable des rasages Gillette. 5 lames resserrées avec un confort incroyable et 1 lame de précision pour les zones difficiles. Gillette Fusion Power, donnez le meilleur de vous-même aujourd'hui. We'll be right back.
c'était Willem et Jim Gibson. Si on avait eu des cheveux, mon cher CSP, on aurait secoué la tête.
On les réinvitera.
Tu peux répéter le titre, c'est
Willette et Gilles Kinson.
Ouais, bien, ok.
Tu vois, je maîtrise. Merci les gars, vous nous en ferez une petite tout à l'heure, juste avant la chronique de Laurent. Mais là, c'est notre Jeff national qui va nous faire quelques brèves. Et donc c'est des brèves de la haine du président.
Non. Moi je propose juste qu'on libère Jean-Marc Rouillon.
Oui.
Ça fait un moment qu'on n'a pas libéré Jean-Marc Rouillon en fait. Alors Jean-Marc Rouillon, il vient d'écrire Paul des Épinettes et moi qui, sur la maladie et la mort en prison. Et il sera le 4 mai à Terra Nova à 19h.
C'est vrai.
Pas lui, mais le bouquin parce que. Si vous voulez rencontrer Jean-Marc Rouillant pour dédier son livre, il faut faire des trucs un peu sympas.
Ah, c'est qui ce gars?
Et se retrouver devant la justice et après, amurri. Voilà.
C'est qui ce gars?
Mais Jean-Marc Rouillant, tu sais pas qui c'est Jean-Marc Rouillant? C'est le, notre camarade.
Je me mets à la place des auditeurs, attends. C'est tout le monde, attends.
Ouais, merde. C'est ça, l'auditeur est con. Non. Jean-Marc Rouillant, c'est un camarade de lutte qui, il y a quelques années, a été victime d'une erreur judiciaire. Voilà. Ouais, voilà. Pourquoi ça n'arrive qu'aux Polonais, ce genre de bonnes nouvelles? On existe aussi! Moi qui fais partie de l'immense majorité des terriens qui se foutent de savoir avec qui couche Carla Bruni. Je fais également partie de l'immense majorité de ceux qui rêvent de voir leur élite se scratcher dans un accident d'avion, couler dans un porte-avions le jour de l'inauguration du nouveau réacteur, périr dans un attentat quelconque. Oui, je sais, il n'y a pas d'attentat quelconque, c'est mal de banaliser. Voilà. Le Pen est encore en liberté. Et même, et vous savez quoi, sa petite fille s'en mêle.
Non.
La petite fille Le Pen arrive. Eh oui. Sous prétexte qu'elle est jolie, parce qu'en fait elle est pas très fine quand même. Mais t'inquiète ma grande, on te réserve le même sort qu'aux autres. La tonte à la libération. Voilà, je passe d'un sujet à l'autre, hein, du coq. Voilà. D'ailleurs c'est très bref. Je vais parler d'un mot. Un truc marrant, il y a Alain Lepresse, le chanteur, avait écrit une chanson qui s'appelle « Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom ». C'est une jolie chanson, malheureusement. Et voilà, je pensais au développement durable. Vous savez, ça fait joli dans les pubs, ça fait joli. Alors voilà, le développement durable doit être exécuté sur le champ. Qui est contre ?
Moi ! Bon, Yannick.
Bon, tu seras exécuté avec le développement durable. L'expression même pue au nez, ça sent le capitalisme social-démocrate repeint en vert. Polska! Vous savez ce que ça veut dire, Polska?
Pologne.
Pologne, Polska! Le développement durable accouchera de saloperies plus vicieuses que jamais, parce qu'il nous est servi par des gens de gauche, oups, j'ai dit un gros mot, qui sont en fait des adversaires politiques. Bref, suivante.
Si... Arrête de dire que c'est du flou,
je ne connais pas cette personne. du flot de conneries en vert. Ciné Hebdo va mourir. Eh oui. Oh.
Mais c'est sûr. C'est sûr.
Ciné Hebdo va mourir et autant dire qu'il est déjà mort. Mais c'est pas grave, on a bien rigolé.
Mais il part à la retraite ou il est mort
Non, ils sont morts. Ils ont trop de lecteurs qui n'ont pas assez d'argent. Et voilà. Okay. Moi personnellement, je l'ai volé plusieurs fois. Mais je l'ai voulu pour le donner à d'autres pauvres, etc.
Oui, d'accord.
Et ça, c'est le dernier numéro, ouais. C'est ça?
Il y a aussi dans ces œuvres.
Ok.
Je vais juste finir sur un. En fait, je veux m'auto-congratuler.
C'est déjà pas mal.
Je les ai amenés parmi nous. J'ai deux nouveaux amis.
Oui.
J'ai une poche plastique. C'est très radiophonique. J'ai sauvé deux réfugiés politiques que le collaborationniste Besson n'osera pas expulser. Voilà, puisque j'étais en Alsace avant les élections et je savais que ça se passerait mal. Donc j'ai sauvé d'Alsace deux cigognes. Voilà. Elles sont gentilles, en fait il y a écrit Alsace dessus, mais alors, c'est pas Alsace d'abord.
Rappelons que Jeff sort deux cigognes un peluche.
D'une poche couleur modem, voilà. Modem quand même.
Donc je vais les.
Au congrès du Mondial, il y avait 4 personnes et puis dans 2 cyclones.
Donc j'ai décidé de les mettre en garde à vos gosses respectifs, donc à Camille et à Joachim.
Bah merde, là tu m'as crié dans tout le bar là.
Voilà.
Bah c'est pas grave.
Voilà, on en a sauvé 2. On a sauvé 2 Alsaciens du désastre.
C'était l'instant douceur de
Pablo Clément. Voilà. J'arrête avec donc le cri de joie de la semaine. Donc, Polska.
Des Tupolev pour Sarkozy.
Voilà, c'est tout, Jeff.
Bah ouais, c'est tout.
Allez, voilà, il fallait que tu sauves.
Merci, John.
On peut applaudir, Jeff, je pense.
Bravo. Pour le pound.
Il faut savoir que Jeff, c'est le seul chroniqueur dans cette émission, mais tu sais qu'il y en a des chroniqueurs, hein, ou les autres d'ailleurs, ils le savent aussi. C'est le seul chroniqueur à écrire ses chroniques sur le comptoir 10 minutes avant que l'émission commence, bien sûr.
C'est clair.
C'est ça la conscience professionnelle.
Pas, c'est vrai.
Alors t'en as qui bossent des jours et des jours avant.
Oui, il y en a qui bossent des jours. mais c'est le seul qui a du talent en fait. Hein. C'est pas ça. Les autres, on doit travailler.
Voilà.
Non, ça tient pas.
Ouais, Et d'ailleurs, on va voir ce que donne Gwen après de si longs mois d'absence.
Bah, tu verras que j'ai pas trop de talent. Mais en tout cas, bon, j'ai.
Pas plus haut que le bord.
Ouais, les poules. La cavalerie, les poules.
C'est l'émission qui veut ça, qui veut tuer. C'est une émission écoutée par beaucoup de poules aussi. C'est pour ça.
Bon, alors moi, j'ai parlé d'un sujet un peu plus sérieux, on va dire. Mais bon, en tout cas, qui me semble important. C'est en fait le mercredi 7 et jeudi 8 avril, c'est à la semaine dernière en fait. Ouais. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu les états généraux de la sécurité à l'école.
Ah oui,
c'est... Ouais, génial hein. Voilà, mais en tout cas, ça n'a pas été tellement médiatisé en fait. Ça a eu lieu pendant 2 jours à la Sorbonne. Et alors, en fait, alors pour désamorcer ces récentes annonces sur la sécurisation à l'école, Luc Châtel, je vous rappelle qu'il est notre ministre de l'Éducation nationale, et porte-parole du gouvernement, a proposé de mettre en place des états généraux sur la sécurité à l'école. Alors la veille, dans son discours à ces états généraux, il a dit ceci: « Je veux dépasser l'opposition entre les tenants du tout sécuritaire et ceux du tout pédagogisme. » Donc beaucoup d'espoir hein, dans cette annonce-là. Je vois CSP qui est plutôt dans cette phrase-là.
Je suis plutôt dans le sécuritaire.
C'est plutôt, ouais. Ouais. Et Jeff plutôt dans le pédagogiste. On a les deux radicaux ici. Voilà. Mais bon, on voit qu'il se sent plutôt au milieu. Alors, beaucoup d'espoir pendant ces états généraux. Il y a eu beaucoup d'intervenants, donc des universitaires, et puis des gens aussi, des syndicats, etc. Donc, ils ont répété que la dégradation de l'environnement social et urbain était la principale cause de la montée et de la répétition des violences à l'école. Ils ont dit également... Vous êtes d'accord ? Bon, ils ont dit également que les classes trop chargées aggravaient la situation et que les jeunes enseignants n'étaient pas suffisamment armés pour faire face au climat qui règne dans les établissements.
Ils ont pas dit qu'ils étaient trop jeunes par hasard ?
Non,
les jeunes enseignants sont un peu trop jeunes.
Mais ça a été dit quand même au niveau des jeunes enseignants. Ils ont insisté également sur l'importance de la pérennité des effectifs, de la présence des adultes dans les établissements, etc. Et puis, à de nombreuses reprises, ils ont également souligné que la réforme de la formation des maîtres était totalement incompatible avec la volonté de lutter contre les violences scolaires. Enfin bref, on a eu beaucoup d'espoir pendant ces états généraux et en fait, Luc Châtel, ben les syndicats étaient assez contents quand même. Il y a eu médiatiquement, ça a été intéressant. Mais en fait, Luc Châtel
qui confirme ce qu'on pense des syndicats quand même.
On peut le voir comme ça. Mais en fait, Luc Châtel est arrivé à la clôture de ces états généraux et il a pris quelques décisions qui ont du coup été complètement en inadéquation en fait avec ce qui a été dit avant. Alors, ces décisions ont énormément déçu. Elles ont été en décalage complet avec les attentes exprimées lors de ces journées. Alors je vous en donne quelques-unes de ces décisions qui ont été prises sur la sécurité à l'école. Tout d'abord, première décision, créer des structures adaptées hors de la classe au sein des établissements pour accueillir les élèves perturbateurs. C'est-à-dire les élèves perturbateurs, on les vire de la classe, on les met dans des cellules spécialisées où ils auront des éducateurs qui vont s'occuper d'eux. Première chose. Deuxième, et ça va vraiment se mettre en place, hein, ces choses. Deuxième décision, sanctionner les parents qui n'assument pas leurs responsabilités en rendant effectives les sanctions en matière d'allocation familiale. En gros,
chez eux.
Voilà, on responsabilise les parents.
Parce que tu sais bien que c'est souvent les
étrangers. Et on sait bien que ces étrangers sont là pour prendre notre travail.
Mais absolument, et nos femmes.
Voilà, donc.
Et pas nécessairement cet ordre.
Et nos terres.
Là, ça va quand même se mettre en place de sanctionner les parents. C'est quand même énorme, quand même, de sanctionner les parents qui n'assument pas leurs responsabilités. Deuxième chose, renforcer la formation des enseignants sur la gestion des conflits en classe.
Ah oui, la gestion des conflits.
J'ai entendu ça, oui.
Autre décision, le doublement dans les académies les plus exposées. Hein, le doublement des équipes, ce qu'ils appellent des équipes mobiles de sécurité, des EMS, qui sont en fait des flics ambulants, qui pourront intervenir dans les établissements scolaires et qui pourront choper ceux qui sont perturbateurs.
Et Pasquale avait balancé ces équipes mobiles là, sur...
Non, c'est autre chose.
C'est... Ouais, c'est un peu comme un peu les flics ou la police un peu de proximité, mais dans les établissements scolaires, quoi. Bon, enfin bref, moi ce qui m'exaspère, c'est qu'on fait comme si le problème aujourd'hui à l'école c'était le problème de la violence. Il me semble qu'on déplace le problème. Alors je sais que c'est vendeur hein, politiquement de parler du sujet de la violence, mais il faudrait se poser les vraies questions du style. Que fait-on pour compenser les suppressions de postes du personnel de l'école ? Que fait-on pour arrêter la dégradation au quotidien des équipes pédagogiques au sein de l'école ? Que fait-on pour améliorer la mixité sociale aussi dans les établissements ? Et est-ce que supprimer la carte scolaire, c'est important ? Est-ce que c'est pertinent ou pas ? Je pense que...
Parce que la mixité sociale, c'est
pas... Ouais.
Et la carte scolaire permettait de...
Tout à fait. Mais la suppression de la carte scolaire va renforcer la ségrégation sociale. Également, une question qui me paraît importante aussi, c'est la masterisation de la formation des enseignants. C'est avec la suppression du concours à terme. Hein. C'est, est-ce qu'elle va mieux former les enseignants, cette politique de formation ?
Non, c'est énorme, déjà.
Et puis une autre question importante, c'est une orientation trop précoce des élèves est-elle une solution à l'apprentissage des valeurs scolaires ? Parce que vous savez que maintenant, on va orienter de plus en plus tôt les élèves. Dès la 5e, on va les orienter vers des formations professionnelles.
Le bac pro qui est passé de 4 ans, qui se faisait en 4 ans avec le BEP, 2 ans de BEP, 2 ans de pro,
voilà.
Fait que maintenant, il se fait en 3 ans. Et donc, on éjecte une grande partie de jeunes en CAP et les CAP. Ça n'est pas l'éducation nationale.
Voilà. Bon, ça, je sais. Voilà. Bon, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup le public, mais en tout cas, je continue. Alors, le gouvernement veut détourner le regard sur les vrais problèmes actuels à l'école en parlant de sécurisation. Alors, c'est toujours le même sujet hein, que les politiques sortent de leur chapeau lorsqu'ils veulent ne pas parler des vrais problèmes. Parce qu'avec la suppression des postes, hein, la réforme de la formation des enseignants, la suppression de la carte scolaire, nous avons, me semble-t-il, un vrai bouleversement dans la profession enseignante, qui est important quand même, hein, parce que ça engage à la fois les enseignants, mais ça engage également les conditions d'apprentissage de nos futurs gamins, quoi, de nos gamins, enfin
oui,
pour les futurs.
Alors, que des vacances et tout.
Ouais. Alors, savez-vous, un petit exemple. Savez-vous, par exemple, qu'avec la nouvelle réforme de la formation des enseignants, vous risquez d'avoir apparaître des enseignants dans vos classes qui n'ont aucune expérience professionnelle et qui n'ont pas le diplôme. C'est-à-dire que ces enseignants seront stagiaires de la formation, et ça a d'ailleurs aussi bien payé que les enseignants formés, ce qui va créer des conflits. Et cela va poser un vrai problème d'encadrement des élèves et d'éthique professionnelle. C'est-à-dire que balancer des jeunes enseignants qui n'ont pas de formation dans les classes, enfin, vous imaginez que demain, vous pouvez avoir ce genre d'enseignants dans vos classes, quand même. Dans les classes de vos gamins, je veux dire. Alors...
Parce que Jeff,
voilà. Alors, ce cas de figure s'appuie sur l'idée très ancienne, hein, selon laquelle, et là j'en parle à CSP, hein, c'est l'idée très ancienne que être enseignant, ça ne s'apprend pas, ce n'est pas un métier, il n'y a pas besoin de formation. Et ça, c'est, on apprend les principaux rudiments sur le tas. Ça, c'est une vision très, très archaïque et qui est reprise par la majorité de droite. En gros, la formation, ça sert à rien. Donc, Jeff et CSP pour vous. Alors. Non, mais bon, pour revenir à la. Ouais, mais il y a une vision comme quoi l'enseignement c'est une vocation, il n'y a pas besoin d'apprendre. Ça, c'est une.
Puisque moi j'ai toujours pensé que mes profs n'avaient pas de diplôme.
Voilà, mais voilà, mais ça perdure, vous voyez, mais ça soit de gauche ou de droite, c'est une idéologie qui perdure. Alors, pour revenir à la sécurité dans nos écoles, je pense que c'est d'abord en s'attachant à faire reculer les inégalités par des mesures sociales et préventives et à faire réussir... Et à faire réussir à l'école tous les jeunes qu'on peut espérer faire reculer les diverses formes de la violence. Alors, vous savez que selon l'ODAS, qui est... je continue, hein, l'ODAS, qui est l'Observatoire National de l'Action Sociale Décentralisée, Je continue, c'est important. Il y a 9 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il faut savoir que les effets de la pauvreté, du chômage, de la précarité, de l'exclusion sociale que vivent de trop nombreuses familles, hein, c'est pas démagogue ce que je veux dire, c'est que... Et les ségrégations urbaines également, qui constituent pour moi des facteurs exogènes qui pèsent énormément sur le climat des écoles et des collèges et des lycées. Donc... Vous savez que par exemple, et ça m'inspire aussi, vous savez par exemple que les portiques qui sont détecteurs de métaux n'apportent pas de réponse satisfaisante et les pays qui les ont mis en place envisagent aujourd'hui d'autres mesures car il constate une inefficacité constante. C'est-à-dire que la sécurisation... Et également, il y a d'autres études qui montrent également que les caméras de surveillance n'ont qu'un effet très marginal, hein, tant en termes de prévention que de résolution de la violence dans les écoles. Donc voilà. Voilà, faut savoir que Luc Châtel, quand même, il prône ce genre de sécurisation à l'école, hein, l'arrivée des caméras, etc.
C'est quand même vachement plus simple d'être sur la surface que dans la question profonde.
Voilà. Donc, tout à fait. Alors, donc moi, pour au-delà des facteurs exogènes, hein, qui jouent sur la violence, c'est-à-dire les milieux sociaux, etc., défavorisés, lutter contre la violence à l'école nécessite un investissement éducatif à tous les niveaux. Tout d'abord, amélioration des conditions d'études des élèves et de travail des personnels, constitution d'équipes pluriprofessionnelles qui soient stables aussi, un recrutement qui soit à la hauteur des besoins et des moyens pour travailler en équipe, hein, pour les enseignants, ce qui est loin d'être le cas en ce moment. Alors pour conclure, je dirais que ces états généraux qui ont été proposés par le ministre Luc Châtel ont été très décevants, hein, comme on pourrait s'en douter, et malgré certaines bonnes interventions, les décisions qui ont été prises ne sont pas à la hauteur des vraies problématiques de terrain et du besoin des professionnels de l'éducation, dont les enseignants, et ces décisions, me semble-t-il, hein, ont simplement eu pour but de rassurer la classe d'électeurs de la majorité gouvernementale, hein. Il faut croire que, à écouter ce gouvernement, il faut croire que l'on lutte contre la violence scolaire par davantage de répression, de responsabilisation et de contrôle des parents et des élèves, quoi. Il me semble que ça, c'est un problème. Alors, c'est sûr, ce n'est pas très coûteux économiquement comme solution, hein, de culpabiliser les parents en leur disant, bah, on vous enlève les allocs si vous vous occupez pas de vos gamins.
Ça permettra même de faire quelques économies.
Voilà. Mais en tout cas, c'est très culpabilisant pour les parents et très déculpabilisant pour le gouvernement. Donc, je pense que là, il y a un gros problème et je voulais en parler parce que je pense qu'il faut qu'on se bouge le cul pour critiquer ça, quoi. C'est-à-dire, les syndicats se sont bougés le cul, mais je pense que ça n'a pas été très. Ça n'a pas été très médiatisé auprès de la population. Il y a un gros problème.
C'est pas tellement mobilisateur.
Ouais, mais ça concerne nos gamins quand même. Ça concerne l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème au niveau de la formation des enseignants. Il y a un gros problème au niveau. On est sur la sécurisation et on touche pas les problèmes là où ils sont, quoi. Pour moi, c'est problématique.
Voilà. Voilà.
Ouais. Ouais.
Oui, quand Gwen intervient dessus de niveau, c'est...
Mais non, mais je pense qu'il fallait en parler, quoi.
Bah merci.
Non, mais CSP s'en fout, mais je trouve que c'est important, quoi. Mais...
Moi, je crois qu'ils ont raison d'avoir peur de la violence sociale dans les écoles. D'ailleurs, c'est marrant que ça se soit passé à la Sorbonne. Les états généraux de la sécurité à l'école à la Sorbonne.
Ouais.
Ils ont raison d'avoir peur.
C'est vrai, la rue Gay-Lussac est pas très loin de la Sorbonne.
Non, mais là, il y a une technique ambiante. C'est du style, dès qu'il y a un problème, on fait une sorte de colloque. Et puis après...
Un Grenelle.
Mais en fait,
le Grenelle de la sécurité.
On fait un Grenelle, un colloque. Mais en fait, les décisions sont prises bien avant par le gouvernement, quoi. Et là, c'était le cas.
Bah oui. Eh bien, oui.
Voilà. Mais oui, c'est vrai que l'école, c'est une vraie question. Mais comme d'habitude, évidemment, on la contourne. Là, je vous signale que dès la rentrée prochaine, quand même, il y a des enseignants qui n'auront pas été formés, qui seront
pas dit...
face à des élèves à la rentrée là,
ouais,
de septembre. Et donc, ils vont nous apprendre un petit peu qu'ils vont galérer.
Si, ils auront été formés dans les entreprises, ils auront été formés dans la jungle, ils vont enseigner la jungle. Si, ils ont une formation, ouais.
Et pour faire passer la pilule, on va faire payer ces enseignants. On va très bien leur payer les heures de stage qui vont compenser les bourses.
Sauf que là où le bas blesse, c'est qu'on demande aux enseignants en poste d'être les tuteurs de
ces, oui, voilà,
enseignants. Tout à fait. Et bien, faut espérer qu'il y ait une cabale des enseignants quand même pour dire non, on va pas se laisser mettre comme ça.
Mais je crois qu'ils rentrent en force, le gouvernement, ils s'en foutent.
Ils rentrent en force, on va changer aussi CSP de cette transparence. Hein?
Oui,
on va y aller aussi. Bon, allez, Willet et Gilles Pitson pour le second morceau de leur répertoire. Voilà, ça envoie du bois, ça. Allez-y, les gars.
Ah, tu m'entends, Christelle? Ça va mieux là?
Oui, on t'entend.
Oui, donc là, on va enchaîner deux morceaux. Donc le premier, c'est une chanson donc sur les poils, sur les injonctions qui pèsent sur les femmes et les hommes à enlever leurs poils. Voilà, donc ça parle de ça. Et la deuxième, c'est une reprise d'un morceau tchétchène. Voilà, c'est des femmes qui chantent. Et bon, ben là, nous, on a fait des petits chœurs avec la boîte à rythme. Et voilà.
En chaque femme, sommeil mystère et magie. Force et passion. Spontanéité et conviction. En chaque femme sommeille une déesse. Révélez cette déesse avec Vénus de Gillette. Vénus rend votre peau douce comme de la soie et révèle votre beauté rasage après rasage. Vénus, révélez la déesse qui est en vous.
Thank you.
sympa, ouais.
Merci.
Ah, ça te plaît, ça, c'est super.
Ouais, je vais lâcher le bâtard.
Le titre, c'est quoi, déjà?
Alors, le titre, c'est l'histoire avec des poils. Alors, c'était, moi, j'ai pas tout.
C'était Enlève tes poils, et après, elle avait pas de nom encore. Voilà.
Elle se reconnaîtra.
Son poil.
Oh, désolé, ça va. Non, on peut faire des blagues. C'est...
Bon, la première, c'était Enlève tes poils, et la deuxième, elle avait pas de nom.
D'accord. Ouais. On leur fait pas.
Non, c'est bon.
Une fois, c'est bon.
Ouais.
Non, mais on voilà, si jamais un jour vous entendez où il est, et Gilles Pinson dans un bar toulousain, ben vous savez que c'est où il est, et un bar toulousain.
Bon, il reste le chroniqueur le plus poilu quand même qui a passé.
Ah oui, oui.
Arrête, ça va quoi, c'est bon.
Il faut une annonce du chroniqueur le plus poilu, Laurent.
Mais c'est comme.
C'est comme.
Évidemment, Laurent, le printemps s'en inspire.
Oui.
Rencontre.
Oui. Alors, vous êtes comme un président polonais et finalement, vous trouvez que la vie est un peu courte. Vous êtes comme une Carla Bruni qui défrait la rumeur et vous trouvez que votre mari, là aussi, un peu trop courte. Vous êtes comme une Barbara dans Dis quand reviendras-tu, qui trouve que le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Alors les filles, plaquez vos maris usagés qui vont au supermarché avec le maillot du Barça, et les gars, laissez tomber vos jolies copines au shopping abusif. Renouvelez votre offre à une époque où l'on change de cœur comme de mobile. Si tu as un bon forfait et assez de points, toi aussi, sois mobile. Alors voilà, le décor est posé, c'est le printemps, il fait chaud, les filles s'ouvrent à l'amour, telle la rose trémière s'ouvre aux chaleurs des beaux jours. Et les garçons s'ouvrent en chaleur, tels de gros libidineux en rut et en route vers la luxure. Si vous ne voulez pas passer l'été à vous morfondre, telle une Rachida Dati en voiture de fonction, c'est aujourd'hui, ici, maintenant, qu'il faut recommencer à travailler vos rencontres amoureuses. Alors d'abord, il faut savoir que l'on vit une époque formidable et que ce n'est qu'à partir du 19e siècle que la notion de choix dans la recherche d'un conjoint existe réellement, car jusqu'à là, on s'unissait pour un territoire, du fric ou pour un nom, alors que de nos jours, ce qu'on échange, ce sont des sentiments. Et il n'y a qu'à écouter l'œuvre intégrale de Francis Cabrel ou de Christophe Maé pour s'en convaincre. Quand Christophe Maé chante, ça fait mal, hein ? Ce n'est juste qu'une affection de notre homme qui lui refourgue ses sentiments par derrière, sans doute. Je sais pas. Coup de foudre, âme sœur, rencontre magique, c'est le hasard qui fait la rencontre. Ce qu'il faut savoir aussi avant de se lancer, c'est que si tu es ouvrier ou paysan, ben t'as très peu de chances de te baiser Carla Bruni ou, pour les plus tordus, Christine Boutin, à cause d'un truc que les sociologues ont découvert et qui s'appelle...
Ah, toi qui aimes bien la sociologie.
Qui s'appelle l'homogamie, c'est-à-dire que l'homogamie, ouais, c'est-à-dire que les gens s'unissent essentiellement avec leurs égaux sur l'échelle des classes sociales. Ouais, à propos de l'homogamie, Bourdieu écrivait ceci en 1985, le plus sûr garant de l'homogamie et par là de la reproduction sociale est l'affinité spontanée qui rapproche les agents dotés d'habitus et de goûts semblables, donc produits de conditions et de conditionnements semblables. Alors ça apporte pas grand-chose à ma chronique, mais citer Bourdieu dans un de mes papiers, ça crédibilise quand même. Moi, ça a de la gueule, quoi. Autre chose, une étude de Michel Bozon et François Errand qui date de 1988 nous montre que les professions supérieures et instituteurs rencontrent leurs conjoints majoritairement sur leur lieu d'études ou de travail. Les professions intermédiaires également sur leur lieu de travail, mais aussi dans les lieux publics, bars, clubs de gym, cours de théâtre, alors que 40% des agriculteurs rencontrent leurs conjoints lors d'un bal. Hein, mais ça, on savait que les balles, c'est toujours dans les trous. Hein. On peut, c'est un peu pour. Dans cette étude, il est rappelé, et je crois que j'insisterai jamais assez sur ce point, que l'apparence physique n'est pas perçue de la même façon chez l'homme et chez la femme. Les femmes ont une idée préconçue de l'homme idéal. Loin de leur classe sociale, elles sont plus sensibles à leur première image que celui-ci leur a laissée. Alors, si vous voulez choper, les gars, changez de chemise et de chaussettes tous les jours et lavez-vous les dents, parce que l'image, ça compte quand même énormément. Eh ouais. Et plus le niveau social des femmes s'élève, plus l'homme idéal est pensé. Et je vous jure que je n'ai rien modifié de cette étude, et écoutez plutôt, pour elle, l'homme idéal, c'est un homme grand, mince, brun, avec des lunettes. Symbole d'intellect dans l'imaginaire social. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Eh les gars,
bon. Chevelu.
Les hommes, quant à eux, c'est différent.
C'est pas vrai.
Seuls les cadres du président.
Il paraît
Ça, c'est Bourdieu qui l'a dit
Non, c'est Michel Bozon. Ah, ouais. Seuls les cadres du privé et les ingénieurs ont une idée préconçue de la femme idéale. Elle est blonde, mince et aux yeux bleus. Et j'ai envie de rajouter un peu salope, conne et vénale. Car oui, Michel Bozon affirme que dans l'imaginaire masculin, la femme a une fonction de représentation, de socialisation qui ne relève pas de l'apparence sociale. Voilà, maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez commencer les recherches aujourd'hui. Le meilleur moyen, le plus rapide en tout cas, c'est pas sur le lieu de travail où vous tomberez forcément sur une dépressive par les temps qui courent. C'est pas une soirée au petit London où vous ne trouverez que des alcooliques et des barbus. Mais essayez internet pour aller toucher la chatte à la voisine. Alors, petite parenthèse. Petite parenthèse sur le chat. Donc, Alain Jouandet, ministre de la Francophonie, a organisé le mois dernier un concours franco-mot pour supprimer les anglicismes de notre bon vieux François. Et sachez que bientôt, on ne devra plus dire chat, mais iblabla. Oui. On ne devra plus dire buzz, mais en bon français, ramdam, qui, les cons, est un mot issu de l'arabe, désignant le tapage que faisaient aux yeux des occidentaux les musulmans pendant les soirées de Ramadan. Eh ouais. Alors on nous casse les couilles, et ça, couille, c'est bien français, ça vient du latin coleus, qui veut dire testicule, et on dépense un fric fou pour des conneries, alors que les forums du web sont gavés de mecs qui conjuguent le verbe avec autant de maîtrise et d'horreur que je danse le lac des cygnes. MSN, ça doit vouloir dire mort subite du neurone, je crois. Ah oui les gars, parce que si vous voulez pas finir l'été avec des ampoules dans les mains, va falloir reprendre votre bécherelle. Les nanas sont sensibles aux fautes. C'est en mettant des airs dans vos participes passé que se construise le désert qui participe à votre présent. Car oui, je vous laisse réfléchir. Car oui, si vous voulez chanter tout l'été, le seul moyen rapide et universel pour s'étreindre à la belle étoile, c'est de s'étendre sur la toile. Et voici quelques pistes pour vous aider, jeunes gens. Et vous avez le choix. Vous avez bien sûr les traditionnelles foires à bestiaux que sont Mythic, Match ou Facebook ou adopteunmec.com, très cher à notre CSP ici présent. T'as changé d'accord. Mais si vous en avez marre des jeunes délurés de 20 ans qui partent dans tous les sens au moindre baiser humide et qui vous insultent au moindre toucher rectal, faites un tour sur allocougar.com. Eh oui, une cougar, c'est une femme d'une quarantaine d'années friande de jeunes hommes en quête d'amour, à l'instar d'une Claire Chazal ou d'une demi-mour qui en ont marre des demi-molles. De nos jours, l'apogée de la femme sur le plan sexuel se fait vers 40-45 ans. Elles se sont débarrassées des tabous liés à leur éducation, elles connaissent leur corps et comment se donner du plaisir. Alors vous pouvez aller voir Allo.
C'est gigolo, autre piste. C'est gigolo en fait.
Autre piste pour ceux qui fantasment plutôt sur la jeunesse de l'UMP, ceux qui avant lui est une perversion qui relève de la psychiatrie. Il existe droite-rencontre.com et pour pas faire de jaloux, il y a également gauche-rencontre.com pour être sûr de se taper une ségophile, c'est royal. Hein. Si vous avez un animal, je vous ai déjà parlé ici de Zanibook, le Facebook pour les animaux, et bien dites-vous qu'il existe un vrai site de rencontre pour vos toutous et vos migales, pates-dating.com, où les mecs pourront rencontrer des chiennes et des femmes, des vaches à lait en toute légitimité. Ouais, exactement. Et oui, on trouve de tout sur internet, et dans mes recherches j'ai même trouvé, pour ceux qui ont suivi mes pistes et qui ne sont plus seuls, un sex shop en ligne halal. Elazira.net qui propose des gels de massage et des aphrodisiaques garantis halal, sans composants interdits pour les rites musulmans comme les graisses animales du porc ou l'alcool. Et je me dis, à quand les lubrifiants cachers approuvés par la Torah, Torah moins mal, ou les préservatifs Benoît XVI, small size pour les petits enfants. C'est un peu n'importe quoi. J'espère que toutes ces indications vont vous nourrir d'espoir face à l'approche frémissante d'un été à partager. La prochaine fois, je vous parlerai des techniques à employer pour mettre toutes vos chances de côté. Et surtout, une fois consommé, n'oubliez pas de vous inscrire et de valider vos ébats sur ijustmadelove.com, où vous pourrez savoir combien de personnes ont fait l'amour durant les dernières 24 heures, la semaine passée, dans quel lieu, dans le monde entier, hein, c'est une carte Google, dans quelle position, et si c'était la première fois. Et moi, là, je dis stop, c'est pas possible. Et c'était quand même plus sympa, l'amour à l'époque des beatniks, que celle à l'époque des beatgeeks. Alors finalement, le mieux c'est peut-être de vous déconnecter de vos écrans, redécouvrez vos sens dans le pétillant du tactile et la douceur des arômes, et chantons tous Michel Fugain, le printemps est arrivé, sors de ta maison, l'amour et la joie vont revenir chez toi, vive la vie, vive le vent, vive les filles en tablier blanc, surtout s'ils sont transparents.
Et c'est mérité, je vous le dis, hein, c'est la fin. Nous touchons à la fin.
Moi je touche le bout rouge. Yeah.